Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer la mort subite du sujet jeune. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Frédéric Sacher. Professeur Sacher, bonjour.
Bonjour à tous.
Professeur Sacher, vous êtes cardiologue au sein du service de cardiologie, électrophysiologie et stimulation cardiaque du CHU de Bordeaux. Vous faites partie de l'Institut Lyrique et vous êtes responsable du centre de référence des maladies rythmiques héréditaires et de la prévention de la mort subite sous l'égide de la filière cardiogène. Alors avec vous, professeur Sacher, nous allons particulièrement aborder la prise en charge médicale et psychologique des patients jeunes ayant subi un accident cardiaque grave et des familles. Et tout d'abord, quelle est la prise en charge d'un jeune patient qui a survécu à un arrêt cardiaque ?
Ah, c'est quelque chose de très très important et d'assez compliqué, surtout quand ça vient de se produire. Le premier point, c'est vraiment d'essayer de comprendre ce qu'il a pu se passer une fois la période de réanimation passée, une fois que le patient a été sauvé. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé pour deux choses. Un, éviter que cela récidive, et deux, en trouvant la cause, s'il s'agit d'une maladie héréditaire, on pourra prévenir un éventuel arrêt cardiaque chez les autres membres de la famille. Donc pour ces deux raisons, c'est absolument indispensable une fois la phase de réanimation passée. Et ces prises en charge donc sont des examens, des bilans qui sont faits dans des centres de compétences ou de référence qui ont l'habitude de ces pathologies, donc, et qui vont essayer de rechercher, dont le but est de rechercher une maladie cardiaque, que ce soit au niveau des artères coronaires, de l'imagerie avec de l'échographie, de l'IRM, des tests pharmacologiques, voire des tests d'effort, et en fonction si on a des orientations pour une maladie héréditaire, éventuellement des tests génétiques. La prise en charge ne se limite pas à essayer de trouver une cause, mais également bien sûr à traiter pour éviter que ça resurvienne, que ce soit avec des médicaments ou avec l'implantation d'un défibrillateur. Et également une autre partie très importante, une prise en charge qui va être dans un deuxième temps, une prise en charge neuropsychosociale, consultation bien sûr avec un psychologue pour la personne, mais également pour sa famille, et un bilan neuropsychologique parce qu'il peut y avoir aussi des atteintes moins visibles comme des troubles de l'attention, des pertes de mémoire qui, si elles sont prises de façon précoce, peuvent être traitées. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis, il y aura tout le côté social avec la médecine du travail en fonction du métier que les personnes font. Voilà. Et peut-être le dernier point, c'est l'accompagnement pour la suite, mais on reviendra dessus, je pense, et l'éducation thérapeutique par rapport aux défibrillateurs, mais aussi aux mesures hygiénodiététiques. Il y a le type d'effort qu'on peut faire, faire attention à certains traitements à éviter. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez complet qui va de comprendre ce qui s'est passé, de trouver une cause, jusqu'à la prise en charge du patient lui-même. Et ça, cela est généralement réalisé dans les centres de compétences ou de référence.
Et si on s'intéresse maintenant à la famille d'un patient jeune qui est décédé d'une mort subite cette fois, quelle prise en charge leur proposer ?
C'est même parfois un peu plus difficile parce que y a un élément qui est vraiment très important assez tôt à dire, c'est ce que je disais pour la personne qui a survécu, c'est de trouver la cause. Alors effectivement, si la personne est décédée, cela est plus compliqué. Ça nécessite souvent de faire des autopsies, alors que c'est un moment extrêmement douloureux pour la famille, puisqu'il faut qu'ils donnent leur accord et qu'ils sont sous le choc de l'annonce. Mais il faut bien comprendre que l'autopsie est un point crucial pour la prise en charge ultérieure de la famille et éventuellement des analyses génétiques chez la personne qui est décédée, car ça nous permettra de nous orienter. Il y a certaines causes qui peuvent être héréditaires et d'autres non. S'il s'agit juste d'un infarctus du myocarde, par exemple, il n'y aura pas besoin forcément de voir la famille, alors que si on a des éléments pour penser que c'est une maladie héréditaire, génétique ou pas, à ce moment-là, il faudra aller chercher chez les autres membres de la famille cette pathologie pour justement, encore une fois, prévenir un éventuel arrêt cardiaque. Donc ça, c'est vraiment important de ce moment aigu quand on demande l'autopsie, qu'elle soit faite vraiment, parce que ça aidera pour la prise en charge de la famille plus tard. Et puis, il y a une composante également de soutien psychologique qui est absolument indispensable parce que la famille, c'est elle qui reste. Et donc, c'est quelque chose par définition d'inattendu. Et donc, ça crée des vrais stress aigus qui peuvent, s'ils ne sont pas traités, se transformer en stress post-traumatique. Et c'est une étude qu'on a réalisée récemment, l'étude Tempo, avec notre psychologue, Madame Banos, qui a montré cela. Donc c'est assez compliqué de ressentir, enfin de spontanément aller demander un soutien psychologique. Donc c'est aux personnes, aux médecins qui vont prendre en charge ces familles, d'adresser, de recommander ce soutien psychologique. Alors si le patient est décédé dans une structure en réanimation, c'est les gens de la réanimation qui vont l'adresser vers le centre de référence, qui pourront l'adresser éventuellement pour une prise en charge psychologique. Mais le problème, c'est que souvent en pratique, ce qui se passe, c'est que la personne est décédée dans l'espace public, elle n'est pas connue de l'hôpital, et donc la famille se retrouve un peu dépourvue. Et donc là, c'est le médecin traitant qui va être en première ligne. Et il peut faire appel, il y a le site de la filière cardiogène sur lequel on peut avoir des coordonnées, alors soit d'informations, mais également pour éventuellement adresser le patient. Et il y a également un centre de ressources psychologiques de la filière cardiogène où les coordonnées sont dessus sur le site, la filière cardiogène, et les familles peuvent appeler pour justement être orientées par rapport à ce soutien psychologique. Parce que c'est vrai que si la personne est décédée en dehors d'une structure hospitalière, les gens sont malheureusement souvent livrés à eux-mêmes.
Et ensuite, pour le suivi des patients ou des familles, quels sont les signes de suivi et d'alerte à surveiller ?
Alors, c'est variable en fonction de l'étiologie, de la cause de l'arrêt cardiaque, mais pour le patient lui-même, les signes qui doivent interpeller, c'est la perte de connaissance. La perte de connaissance, alors, c'est pas forcément signe d'un arrêt cardiaque, on connaît tous les pertes de connaissance dites vagales qui sont bénignes, mais ça, dans un contexte de mort subite, enfin, en tout cas d'arrêt cardiaque dans la famille, ça doit interpeller, ça doit au moins nécessiter une consultation. Et puis en fonction de la pathologie, la personne devra avoir un suivi avec un cardiologue qui connaît la pathologie, par exemple pour adapter le traitement, les posologies de traitement, mais également rappeler les précautions à prendre. Dans certaines pathologies, il y a des médicaments qui peuvent être dangereux, donc il faut éviter. Il y a, dans d'autres, c'est la fièvre, il faut lutter contre la fièvre. Donc pour tout cela, c'est important d'avoir des consultations régulières avec le cardiologue traitant. Et puis, souvent après un arrêt cardiaque, il y a mise en place d'un défibrillateur, en tout cas quand il y a une cause qui perdure. Et il faut surveiller le bon fonctionnement du défibrillateur, même s'il y a des outils de télésurveillance, et ça c'est quelque chose d'important. Toute personne qui a un défibrillateur maintenant devrait avoir la possibilité d'avoir une télésurveillance qui permet de s'assurer de son bon fonctionnement.
Et pour conclure, professeur Sacher, après la gestion de l'urgence médicale en tant que telle, à qui adresser les jeunes patients qui ont survécu à un arrêt cardiaque ou les familles de jeunes patients qui sont décédés d'une mort subite ?
Pour ce qui est des jeunes patients qui ont survécu à l'arrêt cardiaque, ils sont généralement en réanimation et donc c'est les services de réanimation qui vont les adresser dans des centres justement de référence ou de compétences, dont la liste peut être retrouvée sur le site de la filière, pour faire ce bilan étiologique, pour essayer d'identifier des causes, car c'est ça qui va conditionner tout le reste en fonction de l'étiologie retrouvée. Pour ce qui est des familles de patients qui malheureusement seraient décédés, là c'est parfois un peu plus compliqué parce que comme je le disais au départ, ils peuvent se retrouver un peu isolés et c'est le médecin traitant qui va se retrouver au milieu de l'histoire et qui va devoir l'adresser sans qu'il ait forcément les liens, en tout cas la connaissance des différentes structures qui encore une fois peuvent être retrouvées sur le site de la filière cardiogène pour pouvoir adresser au centre de compétences ou de référence le plus proche pour que les apparentés du premier degré, c'est-à-dire les parents ou les frères et sœurs ou les enfants en fonction d'une personne qui a fait un arrêt cardiaque, soient vus. Ça, c'est si on pense qu'il y a une maladie rythmique héréditaire. Mais encore une fois, ce qui est le plus important, c'est de savoir s'il y a de connaître la cause parce que il y a des arrêts cardiaques qui ne sont absolument pas familiaux ou héréditaires. Et donc, à ce moment-là, il n'y a pas de besoin médical particulier, si ce n'est éventuellement, bien sûr, un soutien psychologique à mettre en place.
Eh bien, merci mille fois, professeur Sacher, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est la mort subite du sujet jeune. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions pour votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite !